Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi une très grande joie de me trouver devant vous aujourd'hui. Nous lisons 1 Samuel, les chapitres 4, les versets 1 à 11. Ainsi, la parole de Samuel était pour tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour le combat. Ils dressèrent leur camp près d'Ebenezer et les Philistins dressèrent leur camp à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui abattirent environ 4000 hommes dans ses lignes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins ? Allons prendre à Silo le coffre, l'arche de l'Alliance du Seigneur, qu'il vienne parmi nous et qu'il nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on apporta le coffre de l'Alliance du Seigneur des armées qui est assis sur les Kéroubim, Ophni et Phinéas. Les deux fils d'Élie étaient là avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque le coffre de l'Alliance du Seigneur arriva au camp, tout Israël lança une grande acclamation, la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent l'acclamation, ils dirent « Qu'est-ce donc que cette grande acclamation dans le camp des Hébreux ?» Ils surent ainsi que l'arche de l'Alliance du Seigneur était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur. Ils disaient « Dieu est arrivé au camp. Quel malheur pour nous, rien ne sera plus comme d'habitude. Quel malheur pour nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux formidables ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. » Soyez forts, soyez des hommes philistins de peur que vous ne soyez soumis aux Hébreux comme ils vous ont été soumis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent donc bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit à sa tente. La défaite fut très grande et il tomba 30 000 fantassins. Le coffre de Dieu fut pris, Ophni et Phinéas, les deux fils d'Élie, moururent. Vous savez, quand vous prenez de temps en temps place là en haut, vous voyez tout de suite si c'est déplacé. Elle était un peu déplacée sur la gauche, donc voilà. Nous ne pouvons pas faire entrer Dieu dans une boîte. Il n'est pas possible de forcer la main de Dieu. Lorsque nous établissons des plans, nous ne pouvons pas contraindre Dieu à y adhérer. Et généralement, il y a cette phrase qu'on aime bien citer, « Les pensées de Dieu, mes pensées, ne sont pas vos pensées. » Généralement, on aime bien ce verset, on le trouve profond, peut-être mystique, mais je crois qu'on ne comprend pas toujours la portée de ces mots. Parce qu'à cause de cette différence, parce que mes pensées ne sont pas celles de Dieu, alors, jour après jour, je suis appelé à me remettre en question. Et cette remise en question, cette façon de me questionner sur est-ce que mes pensées correspondent à celles de Dieu, est-ce que mes plans correspondent à la volonté de Dieu, pour me remettre en question, je dois me repentir. Et Christ, et la bonne nouvelle, nous offre la repentance comme un moyen de réaligner nos pensées et nos projets sur ceux de Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, dans un coffre. J'ai été stupéfait en lisant cette histoire-là qui se trouve dans 1 Samuel 4. Comment le peuple de Dieu tente de forcer la main au Seigneur. Dans ce récit, on voit une confrontation entre le peuple d'Israël et ses ennemis, les Philistins. Et les Israélites partent à l'affrontement. Une première fois, mais ils subissent une défaite. Ils forment le projet d'attaquer, ils attaquent et ils sont vaincus. Et donc ils vont se mettre à réfléchir. Que s'est-il donc passé? Et après réflexion, ils vont décider de repasser à l'attaque, mais cette fois-ci en emmenant l'Arche de l'Alliance avec eux. Et ce faisant, ils sont sûrs, en prenant l'Arche de l'Alliance, d'obtenir la faveur de Dieu et de pouvoir gagner la bataille. Le texte nous montre bien que cette stratégie s'est avérée fausse, ou en tout cas pas très fructueuse. Et donc, face à cette première défaite, le peuple se pose cette question. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins? Déjà, je trouve que la formulation de cette question est pleine de sens. C'est le Seigneur qui les a battus devant les Philistins et c'est pas les Philistins qui les ont battus devant le Seigneur. On voit que, voilà, c'est une façon d'échapper à la défaite, à l'humiliation de la défaite. Ils estiment que c'est pas leurs ennemis qui ont gagné, mais c'est plutôt Dieu. Et donc, face à cette défaite, le texte nous dit « Allons prendre à Silo le coffre de l'Alliance, qu'il vienne parmi nous et qu'il nous sauve de la main de nos ennemis. » Combien de fois dans nos vies procédons-nous de la même façon que le peuple hébreu? Combien de fois, lorsque nous subissons une défaite, un échec, un refus, essayons-nous d'emporter un coffre, une arche, pour contraindre Dieu à suivre nos projets? Et cette contrainte, elle peut être multiple, ça peut être par des rituels. Alors nous, effectivement, foi protestante évangélique, nous n'avons peu de rituels. On n'a pas cette eau bénite ou tous ces éléments-là qui... Voilà, ces rituels où on essaye de faire entrer Dieu. Et pourtant, je me suis posé la question si, de temps en temps, nous ne pouvions pas nous servir de la prière pour faire entrer Dieu dans nos projets. Il ne suffit pas de prier avant un culte pour que ce culte rende gloire à Dieu. Il ne suffit pas de prier avant une rencontre pour que Dieu soit réellement au centre de cette rencontre. Il ne suffit pas de prier avant de prendre une décision téméraire ou sage pour être sûr de prendre la bonne décision. Et parfois, du coup, ce faisant, en priant, on essaye quand même de contraindre Dieu à entrer dans nos plans. J'ai été pendant quelques temps responsable jeunesse pour un groupe de jeunes. Et je me souviens, la prière que qu'on m'a le plus demandée, ce que j'ai dû le plus prier en travaillant pour la jeunesse, c'était « Peux-tu prier pour que je réussisse mes tests ou mes examens ?» Il s'agissait vraiment de la prière, quoi. Alors, j'ai jamais refusé de prier, mais quand même, quelquefois, dans ma tête, en réfléchissant, je me suis permis une pensée absolument outrageante. Et si Dieu s'en fichait de ce test? Et si ta réussite à cet examen importait peu à Dieu? Et si, au lieu de prier, ou plutôt pour forcer Dieu à entrer dans ce projet, et si tu avais révisé un petit peu? Un petit peu seulement. Non, je ne veux pas dire que Dieu n'est pas à nos côtés. Mais lorsqu'on dit que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, ça veut peut-être aussi dire que ces projets ne sont pas les nôtres et donc ce qui me tient à cœur n'est pas forcément ce qui tient au cœur de Dieu. C'est intéressant, je me faisais cette réflexion. Vous savez, David, parce qu'on a, on est dans 1 Samuel 4, à partir d'1 Samuel 20, on a l'histoire de David qui commence à se dérouler, du grand roi David. Et le roi David, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et dans le texte, c'est justement dit, Dieu, l'homme regarde à ce qui est visible, il regarde avec ses yeux, Dieu regarde au cœur, et on se pose la question, c'est quoi la qualité de David? Le propre du texte, te montrer qu'en fait, Dieu ne regarde pas comme toi, Dieu ne pense pas comme toi. Donc même si tu y réfléchis, tu ne trouveras pas pourquoi David est un homme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu regarde autrement. Dieu regarde autrement et la conviction n'y change rien. Moi, j'aime beaucoup la suite du texte que nous avons lu. Lorsque le coffre de l'Alliance, il nous est dit au verset 5, « Lorsque le coffre de l'Alliance du Seigneur arriva au camp, tout Israël lança une grande acclamation et la terre en fut ébranlée. » Non seulement Israël est convaincu que l'arrivée du coffre de l'Alliance signifie une victoire, mais leurs ennemis aussi, puisque les Philistins entendirent l'acclamation et dirent « Qu'est-ce donc que cette acclamation ?» Et ils surent ainsi que l'Arche de l'Alliance était arrivée. Les Philistins eurent peur, ils disaient « Dieu est arrivé au camp, quel malheur pour nous !» Tout le monde est convaincu que l'arrivée de cette Arche annonce une victoire, que ce soit le peuple de Dieu ou ses ennemis, et pourtant, la défaite. Et pourtant, cette seconde bataille, le texte nous dit, les Philistins livrèrent donc bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit à sa tente. La défaite fut très grande et il trenta 30 000 fantassins en Israël. Ce n'est pas parce que je prie pour que Dieu entre dans mes projets que Dieu entre forcément dans mes projets. Attention, je me permets de souligner, il n'est pas mauvais de prier. Vous avez quand même le droit de prier, hein. Non, ce qu'on constate, c'est que cette défaite fait écho à un jugement que Dieu a annoncé par Samuel dans le chapitre précédent. Dieu a dit à Samuel, « En ce jour-là, je réaliserai sur Élie tout ce qui a été dit contre sa maison du début À la fin, je lui annonce que je juge sa maison pour toujours à cause de la faute qu'il connaît. Ses fils ont méprisé Dieu et il ne les a pas repris. » Donc vous aurez constaté à la fin de notre récit, il nous est dit non seulement que les Philistins volent l'Arche de l'Alliance, un vol qui, vous verrez, ne se passe pas si bien que ça pour eux, mais aussi que les deux fils d'Élie, Phinéas et, je ne me souviens plus, mais un très beau prénom, se font tuer au combat. Et en fait, la défaite du peuple de Dieu ici est un jugement de Dieu sur son infidélité. Mais c'est pas comme ça que le peuple de Dieu l'interprète. Et donc on se retrouve à deux attentes opposées. La priorité du peuple, c'est de vaincre les Philistins, alors que la priorité de Dieu, c'est de voir son peuple lui être fidèle. Ce que Dieu veut ici, dans ce texte, c'est pas que son peuple emmène l'arche avec lui. Ce que Dieu veut, c'est que son peuple se repente. Et récemment, j'ai lu un livre sur la repentance et je l'ai trouvé extrêmement inspirant. La repentance, c'est quand même le premier message que Jésus annonce dans les évangiles. Et non seulement Jésus l'annonce, mais Jean-Baptiste aussi. Repentez-vous car le royaume des cieux s'approche. Repentez-vous car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, s'est approché. On voit même dans Luc 24, alors je me permets de le lire parce que c'est la suite des disciples d'Emmaüs, hein, que vous avez eu les deux dernières semaines. Il est dit à la fin, lorsque Jésus enseigne, avant de partir, il leur dit, alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, Jésus leur dit, ainsi il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le message avec lequel Jésus laisse ses disciples, c'est celui de la repentance. Il commence son ministère en prêchant la repentance, il vit tout son ministère en annonçant la repentance, et il le finit sur ce même thème. La repentance, c'est quoi? C'est, d'un point de vue du mot, métanoïa, qui est utilisé, métanous, l'âme, c'est changer de pensée. C'est changer sa façon de penser. Et on a, lorsqu'on parle de repentance, on a forcément cette image... Je ne dirais pas d'où il vient, mais de ce personnage avec une pancarte. Vilain pécheur, repens-toi ou tu vas brûler en enfer, qui, vous savez, qui harcèle comme ça dans les rues. Et ça marque, et on pense que, premièrement, la repentance s'adresse à nos actes, alors que le terme métanoïa commence par nos pensées. Il commence par nos pensées et il est porteur d'une réelle espérance. Cette espérance, c'est qu'il est possible de changer sa façon de penser. Il est possible de changer. Et on entend plein de résultats, de tests, de spécialistes qui nous expliquent que de toute façon, après l'âge de 5 ans, on ne peut plus changer. Notre personnalité est bloquée, que notre façon de penser est de cette façon, que ce sera pas d'autre, que voilà, je suis quelqu'un qui est de mauvaise humeur le matin, je serai de mauvaise humeur jusqu'à la fin de mes jours le matin. Non, Je veux vous dire, il est possible de changer et Jésus nous l'annonce. Et donc, la repentance fait partie de cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est justement de comprendre que mes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais que Dieu peut changer mes pensées. Et pour revenir à notre récit, c'est intéressant, d'un point de vue militaire, la décision d'aller au combat contre les Philistins est juste, et elle semble légitime. Les Philistins rassemblent leurs troupes dans le nord, proche de Silo, et les Israélites, à ce moment-là, possèdent un avantage géographique, c'est-à-dire que il semblerait que le terrain, il est de haut en bas, et surtout, ils combattent d'est en ouest. Et ce qui est avantageux, c'est que du coup, le matin, quand on commence les combats, il y a le soleil derrière nous. Tout semble indiquer qu'il y a une opportunité de combattre. Et il faut la saisir. Et pourtant, c'est les Philistins qui vont s'imposer. Et pourtant, c'est les Philistins qui s'imposent. Et je crois que ce récit où tout semble favorable, mais où pourtant tout ne l'est pas. Tout ne l'est pas parce que les fils d'Élie prennent des pots de vin, font le mal au temple, et Dieu plusieurs fois, au travers de Samuel, va dire « mais il faut qu'il change de comportement ». Il faut qu'il change la manière de penser, la manière de penser Dieu. Et je crois que c'est également de cette façon que Dieu nous appelle à changer nos pensées et pourtant à continuer à prier. À prier parce qu'on a besoin, de l'intervention de l'Esprit pour venir transformer nos pensées. Je ne peux pas tout changer moi-même. Je ne peux pas me transformer moi-même. Il n'y a que par Jésus-Christ, que par la puissance de l'Esprit, que nous sommes transformés. Et donc, permettez-moi de... Non, j'arrive gentiment à la fin de ma prédication. Et donc, en conclusion, je veux retenir cet élément. On ne peut pas faire entrer Dieu dans une boîte, dans un coffre, et j'ose même dans une arche. Non. Malgré la légitimité de certaines de nos pensées, malgré la légitimité de certaines de nos priorités, il est possible que Dieu n'aille pas les mêmes. Et donc, que Dieu, que ses pensées ne soient pas nos pensées, nous pousse à la repentance. À la repentance, c'est que notre prière quotidienne doit être « Seigneur, transforme mes pensées, transforme ma perspective, que je puisse voir mon quotidien, voir ma journée avec tes yeux. » Dieu met la priorité sur la fidélité. Dieu préfère que nous lui soyons fidèles plutôt que nous ayons des bonnes idées, mais qui ne sont pas les siennes. Amen.